Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique? Je m'appelle Astrid.
And my name is Lynn.
Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Bonjour à tous. Dans le secteur de la mode, appréhender le digital et ses subtilités est indispensable pour grandir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters percutantes, gérer les campagnes méta et booster ses ventes en ligne sont autant de défis à relever au quotidien. Aujourd'hui, pour avancer plus fort, plus vite et plus sereinement, je suis convaincue qu'il est indispensable d'avoir un partenaire fiable. Spécialiste de la mode et du lifestyle, Landing Partners accompagne depuis plus de 5 ans les marques dans leur performance en ligne. Et les retours de leurs clients sont unanimes. Anthony et David sont de véritables experts. À l'écoute et capables de produire des résultats concret. Le digital avance vite, il est complexe et passionnant, et personne ne prétend là avoir une recette miracle. Mais chez Landing Partners, vous rencontrerez des spécialistes, des passionnés, des partenaires qui vous accompagnent main dans la main sur vos objectifs de croissance en ligne. N'hésitez pas à aller consulter leur site www.landing.partners pour découvrir leur rapport sur les enjeux du secteur beauté, mode, chaussures, bijoux. Je suis très heureuse d'avoir Landing Partners à nos côtés et je les remercie de soutenir We Love Belgian Brands. Et maintenant, place à l'épisode. Et belle écoute. Bonjour à tous. Début janvier, j'étais chez Valentine Whitmer, la queen du knitwear stylé et coloré en Belgique. Valentine et Arthur, son associé, sont tout ce que j'aime en Belgique. Des gens cool, qui se prennent pas la tête et sont faciles d'accès, chaleureux, ils t'aident avec ton matériel de podcast. Et puis, on parle business de leur marque Valentine Whitmer Lab. C'est clair, ouvert et jamais prétentieux. Dans cet épisode, Valentine explique sans langue de bois les difficultés rencontrées quand on veut performer en ligne, mais aussi plaire aux boutiques multimarques. Elle explique les choix difficiles qu'elle a dû prendre et sa nouvelle stratégie lancée récemment. Avec simplicité, elle se remet en question et nous partage les réalités de son développement commercial. Dans cet épisode, Valentine vous racontera aussi sa fierté de voir ses pièces portées par des stars comme Bella et Gigi Hadid ou encore les coulisses de sa collaboration avec la chanteuse Pomme. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Valentine Whitmer. Hello Valentine.
Coucou Astrid.
Bon, c'est cool de t'avoir à mon micro ce matin. Alors ma première question, comme toujours, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire, si tu te souviens, c'est quoi le métier que tu rêvais faire quand tu étais enfant?
Alors, je m'appelle Valentine Whitmer, j'ai 35 ans, je suis la fondatrice, cofondatrice de la marque Valentine Whitmer Lab et la cofondatrice de la marque Rodé, qui est une marque de swimwear que je partage avec ma grande amie Émilie et qui, elle, gère vraiment la marque au quotidien, alors que moi, je suis plus investie au quotidien dans la marque Valentine Whitmer Lab. Et je pense que je fais le métier aujourd'hui que je voulais faire déjà étant petite, je voulais lancer ma marque. Donc cool. Ça, voilà, je suis restée fidèle à ce que...
Tu te souviens vraiment de ça? Enfant, ah, oui. Tu dessinais, tu...
J'ai commencé à dessiner plus tard, mais je coupais dans les magazines, j'étais obsédée par les magazines, les belles pubs, les beaux shootings, donc déjà j'avais un goût pour l'esthétisme, et je mettais ça dans des classeurs.
Ah ouais?
Je coupais, je mettais ça dans des classeurs. Nous,
on appelait et tu classais quoi? Les matières, les couleurs?
Non, les photos. Ah, j'étais obsédée par les belles photos, à l'époque évidemment les belles mannequins, etc. Ouais. Et dès qu'il y avait des beaux shootings, etc. Ça, je classais dans des fards. Ça,
mais qu'est-ce ça que tu
strictement à rien.
Ah oui, c'est
ah
ça.
Non, à rien.
Tu rangeais quoi.
Oui, je rangeais. Mais j'adorais couper et donc mes photos préférées, je les mettais dans des fards. Et ouais, ça c'était ma grande passion étant petite.
Fard, un de mes mots belges préférés.
Ah ouais,
des dossiers, quoi.
Ouais, des dossiers.
trop. Et swimwear, maillot de bain, évidemment, ouais. Rodé, dont on parlera peut-être encore. Super. Et donc, de ce rêve, tu es arrivée à ta réalité. C'est joli quand même, c'est cool. Quel a été ton parcours?
Alors, moi, j'ai d'abord fait la communication à Bruxelles. Mm-hmm. Ensuite, j'ai été faire mon master en marketing and communication management spécialisé dans la mode à Milan, dans une école
chouette.
Spécialisée ouais, dans la mode à Milan, c'était trop chouette. Je suis rentrée à Bruxelles après un an, donc c'était un master d'un an, et j'ai commencé à travailler chez Smets, le concept store,
ouais.
belgo-luxembourgeois de luxe, donc il y a des points de vente au Luxembourg et un à Bruxelles. J'ai travaillé d'abord en tant que stagiaire, et puis j'ai été engagée comme, entre guillemets, assistante de la marketing manager. Et puis, elle est partie, donc j'ai pris son poste.
Cool.
Relativement jeune, ouais. Peut-être un peu trop jeune.
T'avais quel âge, là?
Je devais avoir 23, 24.
Et qu'est-ce que tu faisais concrètement?
Mais en fait, donc déjà, c'est une entreprise familiale, ouais. Du coup, et ça reste une petite entreprise. Du coup, j'avais un poste, mais c'est vrai que dans des petites entreprises, tu dois faire en fait beaucoup
tout.
Plus de choses. Oui, voilà, exactement. Donc, en fait, j'ai appris énormément. Ça c'était incroyable.
Et t'as organisé des événements, oui. Ce genre de choses avec,
oui,
les marques.
Oui, exactement. Surtout que moi, je suis arrivée au moment où ils ouvraient leur gros point de vente, en fait, à Scarbeck. Ouais. Donc c'est au moment où on devait faire parler de la marque, enfin, donc de Smet. Et en effet, on a dû commencer à
je voilà, me souviens d'un parler. Événement à Kenzo.
Oui, non, les événements étaient dingues. Donc ça, c'était génial. Franchement, surtout que c'est un magasin qui distribuait de très, très, très belles marques. Donc j'ai eu la chance, c'est ce que j'ai appris, ouais. Énormément, et j'étais plongée directement. On a fait un magnifique événement avec Kenzo, comme tu disais, avec Carven. Donc très jeune, j'ai eu, ouais. La chance. J'avais rencontré, par exemple, Guillaume Henry à l'époque, qui était chez Carven.
Ouais, cool.
Donc, pour un jeune âge, j'étais dans un...
Et déjà, dans ton enfance, là, quand tu disais que déjà enfant, tu voulais dessiner et que t'aimais les vêtements, t'étais dans cet environnement de beau, des belles choses?
Pas spécialement, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui travaille vraiment dans
des milieux artistiques, ouais.
Non, pas du tout. Okay. Tout le monde est indépendant, donc je pense que cette fibre entrepreneuriale, on l'a clairement dans la, okay. famille, parce que ce sont mes frères et sœurs, mes parents, tout le monde est dans l'entrepreneuriat. Par contre, dans le côté artistique et esthétique, mon père est très artiste, mais plutôt dans la pub, tu vois.
Ok.
Donc, mais pas vraiment dans l'esthétique comme la voie que moi j'ai décidé de prendre. Mais
chouette.
Donc non, c'est un peu venu.
Ouais. Non, ça, ouais. vient de toi, quoi.
Oui.
Ouais, ouais. Et après Smets, que tu as lancé ta marque?
Non. Alors non. Après, donc j'ai quitté Smets en début 2015, et puis j'ai travaillé en tant qu'indépendante pour le magazine qui s'appelait à l'époque Victoire, qui est devenu Ce Soir, donc le, ouais. supplément du, ouais. du soir du groupe Rossel. Et là, j'ai travaillé pendant, j'irais, 7-8 mois.
OK.
Et puis j'ai travaillé un petit peu pour mon beau-père en marketing qui est concessionnaire de marque BMW Jaguar Land Rover.
OK.
J'ai fait 6 mois, voire un peu plus là, et puis j'ai décidé de lancer ma marque début 2016.
OK.
Enfin, non, j'ai décidé vers août 2015, et en 6 mois, la marque était sortie. Donc, début 2016, on a lancé notre première collection. Ouais.
Et tu viens de dire nous, et tu as dit que tu étais cofondatrice. Qui est cette deuxième personne?
Arthur. Donc, Arthur, mon associé, qui m'a rejoint en fait un petit peu plus tard.
OK.
Donc, j'ai lancé en 2015 avec une première personne avec qui ça n'a pas continué.
Fonctionné.
Voilà,
okay.
Exactement. Mais no hard feelings, comme on dit. C'est juste que ça, voilà, on a évolué différemment. Et Arthur m'a rejoint, lui, fin 2016, début 2017.
C'était un souhait pour toi d'avoir un associé?
Oui.
Tu voulais ne pas être seule?
Ah oui, oui, oui. Non, ça... mais surtout que je pense qu'on peut pas être bon dans tout, et que j'avais, ouais. besoin d'avoir une personne complémentaire à mes skills à moi. Et donc,
et comment?
Il est du coup l'extrême opposé, mais du coup le parfait binôme. Parce que lui, il a plus son cerveau gauche qui fonctionne, et moi j'ai plutôt le droit, ouais. Du coup, on a un très très bon équilibre. Et donc lui, il m'a rejoint en début 2017. Et en fait, lui, il est arrivé au moment où on a décidé de faire une transition, justement, de marque seulement B2C à ce moment-là, vers le B2B.
OK.
Donc, je plus tard le B2B.
Ouais, B2B. Ouais, okay, sûrement. Okay. Ouais, c'est sûr. C'est forcément intéressant de savoir ça. Et du coup, parce que je connais plein de marques qui cherchent des associés, tu vois, qui des filles comme toi, qui sont plus, ouais. le profil créatif. Tu vois, c'est le duo un peu cliché Yves Saint-Laurent, Pierre Berger.
Mais moi, c'est un des premiers conseils que je donne, ouais. aux gens qui me posent la question. Je dis, trouvez-vous quelqu'un, ouais. avec qui vous êtes un de ces,
ouais,
pages.
Complémentaire, quoi.
Ouais. Et complémentaire, surtout. C'est très chouette de faire une marque avec quelqu'un qu'on aime bien, etc. Mais il faut que cette personne vous apporte quelque chose que vous n'avez pas, et vice versa.
Et tu sais comment on trouve un associé?
C'est pas facile. Moi, ouais. franchement, je m'estime être très heureuse, très chanceuse, d'avoir réussi à trouver un associé, avec qui, surtout, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, et on n'a pas eu un pépin.
Ouais, ouais, c'est vraiment
on
chouette.
On a eu des hauts et des bas dans notre marque, et on a toujours regardé dans la même direction. Et donc, franchement, moi, j'ai une chance inouïe. Maintenant, je pense qu'il faut beaucoup discuter. Le bouche à oreille fait beaucoup. Mais trouver un associé, c'est pas facile. Après, ouais. Il y a trouvé un associé.
Et vous vous êtes testé un peu avant de vous associer?
Oui. En fait, on avait on a lancé une première boîte ensemble qui s'appelait Oh My Dress, qui était une société de, enfin, une boîte qui faisait de la seconde main. Je pense qu'on était online, donc je pense qu'on était un petit peu peut-être
trop tôt. Ah ouais.
Et avec, enfin, sans budget. Donc évidemment, quand on voit aujourd'hui des plateformes comme Vinted ou même Vestiaire Collective, etc., je pense qu'ils sont arrivés à un meilleur moment.
Et des gros budgets, t'as raison.
Et des gros budgets. Et voilà. Mais par contre, voilà, on a fait ça pendant 3 ans. Au niveau bruxellois, on était déjà très contents. Mais c'est vrai qu'à un moment, pour en faire un vrai business, il faut.
Ok, mais ça, c'est vrai que c'est un super exercice de collaboration, quoi, de travailler ensemble.
Et ça nous a permis de réaliser, en fait, qu'on était, entre guillemets, fait pour travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand moi, j'avais à la base, donc, lancé la marque avec quelqu'un d'autre. Et puis, quand on s'est séparé avec cette fille à l'époque, j'ai recontacté avec Arthur en disant, est-ce que tu viendrais pas me rejoindre? Lui, entre-temps, avait lancé un autre business. Donc il voulait pas à ce moment-là et puis son business s'est cassé la gueule au pauvre et donc il m'a rejoint
en
2017 du coup.
Génial, et plein d'expériences qui nourrissent après les prochains débats, quoi. Super. Et vous en êtes où aujourd'hui? Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de Valentine Whitmer Lab? Ça représente quoi aujourd'hui? Ça fait combien de temps, t'as dit? 7, 8 ans?
Ça vient de faire 8 ans.
Ouais.
Donc, quand même, pas mal. Donc, 8 ans avec une année, comme je disais, seulement spécialisée, entre guillemets, dans le B2B, où on avait, en fait, notre première collection, c'était 6 pièces, donc 6 pulls.
Ouais.
C'est pour ça qu'en fait, on m'associe beaucoup encore à une marque de pulls, parce qu'en fait, j'ai commencé les 3-4 premières saisons en ne proposant que des pulls. Et puis, en fait, donc, que de la maille. Mais que des pièces, enfin, que du haut, quoi. Donc, pas de pantalon, etc. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'associe encore, un peu trop d'ailleurs à une marque de pull, alors qu'on évolue maintenant. C'est juste que dans la tête des gens, tout ça, ça prend du temps. Et puis petit à petit, on a développé des nouvelles gammes comme les chemises. On développe le jersey par exemple pour la saison prochaine, et même le pantalon tailoring.
Chouette.
Donc voilà, on est en pleine évolution.
Mais c'est vrai que dans ton ADN, pour moi, t'es quand même la queen du knitwear stylé, quoi.
Maintenant, on se rend compte que le monoproduit, ça a du bon et du moins bon. C'est très bien parce qu'en effet, ça permet justement d'asseoir ta marque en tant que, comme tu dis, professionnel de. Mais par contre, c'est pas toujours facile parce que la maille, évidemment, il y a énormément de contraintes techniques qu'il y a aussi, évidemment, dans
d'autres produits.
Oui, dans d'autres produits, évidemment. Mais c'est juste qu'à un moment, nous, on s'est rendu compte quand même qu'on était parfois limité dans ce qu'on avait envie de faire. Et surtout, détail, mais qui a son importance, la maille aujourd'hui, c'est con, mais la météo joue beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, vu qu'on a un business wholesale, donc B2B, on a on en parlait tout à l'heure, des périodes de livraison en magasin qui doivent être bien respectées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, livrer, on en parlait tout à l'heure, des pièces hiver en juillet, c'est compliqué. Les magasins peuvent pas vendre et du coup, en fait, leur selling window, donc leur période de vente est de plus en plus courte. Et donc, en fait, on peut plus faire que de la maille parce que livrer de la maille en juillet, ça n'a aucun sens. Donc, on a été obligé petit à petit, en fait, de rajouter des produits. Pour pouvoir proposer autre chose, en fait, parce que sinon, la période de vente est trop courte, surtout qu'on sait qu'en début janvier, c'est déjà les soldes, les soldes d'hiver. Donc, on a été obligé, un peu forcé, en fait, de proposer autre chose. Et surtout, c'était une volonté aussi de vouloir proposer un vestiaire un peu plus complet et pas que de la maille, en fait. Donc, tu vois, pour pouvoir proposer des pièces qui allaient en dessous, des pantalons, par exemple, parce que même pour créer un univers sur un online shop, c'est quand même logique d'avoir ton propre pantalon, ton propre sous-pull. Et donc, on voulait arrêter de travailler avec des marques extérieures, en fait.
Mais après, ça a du sens aussi, tu vois, de commencer niche avec une catégorie de produits dans lequel t'es vraiment le maître. Et après, de faire grandir ta marque essentielle à commencer avec des t-shirts, quoi.
Ben voilà.
Et évidemment, donc, maintenant, c'est une grande collection.
Ouais, voilà. Maintenant, on veut vraiment proposer une gamme complète. Et puis, c'était une envie aussi, tu vois. Je portais énormément de chemises, par exemple. Et je me suis dit, mais attends, je suis en train de me concentrer que sur la maille. Alors qu'en fait, il y a énormément de pièces et que je vends pas moi-même.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on a commencé avec une petite collection de chemises et ainsi de suite. Et maintenant, elle prend en tout cas en B2B, elle prend une ampleur de plus en plus importante. Donc on va creuser encore là-dessus pour les saisons à venir.
C'est un bon développement à venir. Et du coup, c'est quoi justement toi ta réalité commerciale? Où est-ce qu'on trouve les produits Valentine Whitmer Lab?
Donc comme je disais, on a deux pôles de vente. Donc on a le B2C et le B2B. Donc notre vente en direct se fait principalement du coup via notre site internet.
Ouais.
Et possibilité de prendre rendez-vous en showroom ici, donc à Bruxelles.
Mais ça marche.
On voit que les gens sont pas, ils préfèrent soit aller en magasin. Je pense que le client, ça marche. Donc on a quand même quelques clientes, mais on n'a pas des rendez-vous spécialement.
Ouais.
Les gens ne se battent pas pour venir ici, disons. Du coup, on a notre online shop. On fait parfois des pop-up comme on vient de faire maintenant à Bruxelles pendant les fêtes de Noël.
Ça a duré combien de temps ce pop-up?
2 mois.
Ah
c'est
ouais.
un premier test un peu plus long terme.
Okay.
En général, on fait soit des longs week-ends, soit 10 jours pour avoir 2 week-ends. Là, on a décidé de faire 2 mois. C'était un test. C'est très différent, en fait, parce qu'en fait, on étale, en fait, la possibilité de passage des clients sur du beaucoup plus long. Et donc, c'est vrai que je pense que, du coup, ça implique que le client peut se permettre de dire ok, je passerai plus tard, tu vois. Donc il y a pas cette, on n'arrive pas à ramener
tout le monde. Il y a pas cette excitation de ces maintenant pour 3 jours.
Ouais, exactement. Donc c'est très très différent comme système. C'est très intéressant à voir aussi de voir comment ça fonctionne. Et donc ça c'est pour vraiment pour la vente en direct de notre marque directement à notre consommateur. Et puis on a le pôle B2B wholesale, donc on vend nos pièces au magasin, qui eux achètent, pas comme tu sais très bien vu que c'est ton métier, mais qui achètent 6 mais j'explique, qui achètent 6 mois en amont du coup lors des fashion week, ouais. Et puis on livre le magasin et eux vendent notre marque du coup.
Et du coup vous êtes présenté à Paris, à Bruxelles.
Exact, on est à Paris dans 2 showrooms différents, un showroom qui gère toute la France et un autre showroom qui gère les pays d'Ache, donc l'Allemagne, Autriche et Suisse. Et puis on a notre agent ici qui était à Anvers avant et qui maintenant passe à Bruxelles pour cette saison Fall Winter 24, donc la saison qu'on va vendre maintenant à Paris en janvier.
Et du coup, c'est un focus pour vous, le B2B, développement wholesale?
Ouais. En fait, on avait un petit peu mis ça de côté, mais comme beaucoup de marques d'ailleurs, pendant
avec
le Covid
et
post-Covid, on s'est tous dit, digital, c'est l'Eldorado, c'est l'avenir. On a tous fait marche arrière. On s'est tous dit que Internet, ça allait être dingue, que le digital allait tout exploser. En fait, pas du tout. Justement, ça a même fait un gros, c'est un peu effet pétard mouillé, tu vois.
Ouais, c'est ça.
On s'est tous dit, le digital, ça va être incroyable. Et en fait, même les grands articles, même les grands chercheurs, etc., disaient que le digital allait exploser jusqu'en 2025. Pas du tout. Ouais. On voit qu'on a justement fait un gros.
2022, il y a eu 2 années quand même.
C'est ça. On a eu 2 très belles années. En fait, mais pour beaucoup de business, il y a eu de très belles années Covid. En tout cas, dans mon métier, je ne parle pas des métiers de la restauration, etc. Mais nous, on a fait une très belle année Covid vu qu'on avait du digital et une très belle année post-Covid parce que les gens n'avaient pas dépensé l'année d'avant et donc ils ont consommé énormément en 2022 et depuis.
Et là, votre online shop, votre site internet a été
très bon. Très bon à ce moment-là. Donc, on s'est dit, en fait, le B2B, c'est de moins en moins intéressant. Enfin, le wholesale, c'est de moins en moins intéressant. On va justement mettre un peu tout en digital. Donc là, on s'est dit, OK, on part vers une strate digitale. On s'est rendu compte, en fait, que le digital était complètement en train de se casser la gueule. Et du coup, on est encore, mais dans une période un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire vouloir faire du B2B, vouloir faire du B2C. Mais en fait, c'est difficile. Parce que tu sais pas bien faire les deux et surtout c'est pas la même stratégie. Enfin toi tu sais de quoi on parle.
Non, c'est vrai.
C'est pas la même chose.
Non.
Je dirais pas que c'est 2 business différents, mais c'est 2 approches et 2 démarches.
Bah, déjà l'élément majeur, c'est que pour être dynamique et cohérent sur le digital, il faudrait sortir tous les mois une collection.
Ouais.
Faudrait des drops tous les mois, ouais, avoir toutes les 3 semaines. Et c'est pas du tout qui est la réalité des magasins et la réalité.
Voilà, exactement. Donc en fait, ces 2 pôles-là ne se lient pas facilement en fait. Mm. Donc voilà, comme je te disais, on était un peu le cul entre deux chaises. Donc récemment. Donc, on est rentré de Paris, donc en septembre, on a été présenté Spring Summer 24, où on a fait une saison plus difficile de nouveau en B2B. Et donc, on s'est dit, et ça faisait déjà quelques saisons que c'était de plus en plus dur le B2B. Et donc, on perdait un peu en vitesse en B2B. Le B2C, comme je disais, était un peu
difficile. Vous perdiez des points de vente ou vous perdiez d'un panier moyen qui était plus faible?
Un peu des deux. Soit on perdait des points de vente, soit le panier moyen était de plus en plus faible. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ne réfléchissait pas notre collection en B2B. C'est pour ça que je disais qu'on était le cul entre deux chaises. En fait, on la réfléchissait en digital et on disait, en fait, en B2C, et on se disait, OK, cette collection, elle va marcher en B2B. Mais en fait, comme on disait, c'est pas la même chose. Non. Et donc, on arrivait avec une collection à Paris qui, soit n'était pas assez complète pour les magasins parce qu'ils achètent différemment. Tu vois, ils achètent en rack,
Une histoire, du merchandising.
Oui, exactement.
Ils achètent des looks aussi. Hein,
exactement. Ce que le client,
sur notre site internet, bien sûr, il achète une pièce. Et la réalité aussi du site internet, c'est qu'il a besoin de pièces très fortes, très images, très colorées, ce qui fonctionne bien online. Et la réalité des magasins, parfois, c'est juste le joli pull bleu marine, quoi.
Oui, c'est ça. Et parfois, c'est même l'opposé. C'est pour ça que je dis que en fait, c'était 2 strates très différentes. Et en fait, on essayait de faire les 2, mais du coup, on se perdait.
Et qu'est-ce que vous voulez privilégier alors pour...
Maintenant, justement, donc, vu que digital très difficile, et en fait, je n'ai même pas envie de faire une marque digitale. C'est pas ça qui m'excite, en fait. Je trouve pas qu'on s'est implanté une belle marque en digital. Je pense que c'est un plus d'avoir un site, etc. Mais pour la vision que moi j'ai de notre marque, je pense que le passer en retail et en magasin pour asseoir vraiment notre notre autorité, etc., est primordial. Du coup, on rebifure complètement vers une strate B2B.
En pensant vraiment les collections en wholesale, quoi.
C'est ça.
Pour les
donc
boutiques
maintenant,
multimarques.
En effet, maintenant, on a repensé notre strate. Donc, je disais, quand on est rentré de Paris là, en septembre, on a dit on peut plus se permettre en fait de présenter des collections comme ça parce que c'est pas assez complet, c'est pas assez cohérent. Et donc on s'est dit maintenant il faut vraiment qu'on travaille beaucoup plus la collection pour qu'elle s'adresse au B2B. Et donc ça c'est ce qu'on a fait en seulement 3 mois de temps du coup vu qu'on présente.
Bravo.
Ouais, ça a été intense. Mais entre le moment de la décision.
Merci pour ton honnêteté, de revenir sur ces difficultés qui sont en effet celles des marques, hein, de vouloir aller sur tous les tableaux. Et en plus, c'est ce qu'on nous a dit de faire, quoi.
Ouais.
D'être omnicanal. Ouais. Alors qu'en fait, ça demande une multiplication de ressources, une multiplication.
Et souvent, comme je disais, c'est de.
Et c'est contradictoire. Ouais.
Exactement. Donc, et ça, on s'en rendait compte, mais on n'avait pas pris le moment, enfin, on s'est pas dit, OK, maintenant, il faut qu'on change. Et là, en fait, vu qu'on en a analysé quand même, que ça devenait quand même de plus en plus dur, on s'est dit, là, on peut plus. On peut plus se permettre d'attendre encore une saison pour encore, ça se trouve, voir que ça diminue encore. Donc, on s'est dit, OK, maintenant, il faut qu'on change, c'est plus possible. Et donc, on a, comme je te disais, en 3 mois, on a, du coup, mais avec nos ateliers, ça a été un peu costaud aussi, parce qu'on leur a demandé d'être prêts 2 mois plus tôt, de doubler, les références, donc les SKU. De faire des tailles, ce qu'on n'avait pas avant.
Ah, waouh! Ouais, vous étiez très connu en effet pour du taille unique.
Ça, on arrête. En B2B, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais.
Ça réduit.
Ça réduit déjà, en effet, le panier moyen, parce que plutôt que prendre par exemple 2S, 2M, 2L, ils vont dire, OK, je prends juste 4 pièces. Bah, du coup, t'en perds 2.
Même 3.
Et ainsi de suite. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, exact.
C'est vrai.
Donc, en fait, ça sur toutes les pièces, bah, en fait, ton panier moyen diminue. Et donc, même fonctionner en taille unique aujourd'hui, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne.
Bah, pareil, c'était très pertinent online.
Voilà, exactement. Mais en magasin, pas du tout.
Mais online, le small, medium, large, c'est très clair aussi.
Ouais. Mais, donc voilà. Donc, nouvelle strat qui n'a pas encore payé. Donc, on verra ce que ça donne.
Super.
Mais en tout cas, on a mis beaucoup de choses en place pour que ça bouge.
Ouais. Donc, et c'est intéressant ce que tu dis, le fait de aussi se diversifier.
Ouais.
Ça paraît évidemment la bonne idée, mais à un moment donné, en fait, on perd son focus. Et quand on perd son focus, on n'a pas les résultats, quoi.
Non, exactement. Donc c'est pour ça que, qu'on met des choses en place et on verra.
Ouais, donc là, du coup, vous avez tout retravaillé, là, entre septembre et décembre.
Ouais, donc en 3 mois.
Super.
Et nos ateliers, incroyables, parce que donc, comme je disais, on leur a demandé d'avoir plus de SKU, on leur a demandé de faire des tailles, on leur a demandé d'être prêts 2 mois plus tôt, parce que ça, j'ai pas dit, mais en fait, à la base, on présente en Menco. Mm-hmm. Donc en février, fin février, début mars. Et là, finalement, on a décidé d'aller présenter en préco, donc même durant la Fashion Week Homme, qui est en janvier, donc la semaine prochaine. Et donc ça veut dire qu'ils ont eu aussi, ils ont eu plus de produits, plus de tailles pour 2 mois en moins.
Wow.
Mais par contre, ils nous ont dit, et ça a été incroyable, en soi, ils sont aussi victimes du manque de business, tu vois. Donc ils se sont rendus compte, on leur a dit, OK, voilà. Ça va être un peu exigeant ce qu'on demande, mais on pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire une nouvelle strat. Et ils nous ont dit, et ça, c'est incroyable, on a une chance inouïe, c'est qu'ils nous ont dit, on vous suit.
Waouh.
Ils nous ont dit, votre business, c'est notre business. Au mieux vous allez, au mieux on va.
Bah, évidemment, c'est main dans la main, c'est des partenaires.
Donc, ça, on a la chance d'avoir des
super fabricants. Ouais. Et vous produisez au
Portugal.
Ouais, c'est chouette.
Portugal, un atelier en Belgique et un atelier maintenant en Italie. Donc, on a 8 ateliers en tout.
Cool.
Donc, ça devient quand même assez costaud à gérer.
Ouais, faut le dire aussi, ça, que tout est produit en Europe.
Tout en Europe. Cool. Et Rodé, même chose, on produit au Portugal.
Donc, la marque de maillot de bain.
Ouais, la marque de maillot de bain, on produit aussi dans le nord du Portugal. Donc, tout made in Europe.
C'est cool. Ouais. Moi, quand je suis Valentine Whitmer, en tant que Française qui regarde cette marque belge, je trouve ça trop bien à quel point tu peux aussi habiller des filles françaises comme Laura Felpin ou ta collaboration avec Pomme, qui peut-être en Belgique, je ne sais pas si les gens se sont rendus compte de la notoriété de Pomme, mais moi, j'étais trop bien, Valentine Whitmer Lab et Pomme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
Ouais, alors, Laura Felpin, ça c'est... C'est via sa styliste, enfin, soit via Laura en direct, soit via sa styliste. Mais c'est vrai qu'on l'avait souvent habillée pour deux trois trucs. Et c'est vrai que le gros coup médiatique, c'est vrai que ça a été, enfin médiatique, on s'entend, mais ça a été quand, et je crois que je savais pas,
ah oui, pour LOL, ouais, qui ouais, ressort, ouais, une sort, série Amazon,
ouais, exactement, elle a porté une de nos pièces. Donc ça, c'est vrai que, parce que bon, ça, c'est quand même des, c'est des émissions à gros coup média,
ouais,
donc ça, c'était trop chouette, elle a porté notre pièce. Et bon, le seul truc un peu dommage, c'est que la pièce était sold out sur notre site, donc on n'a pas pu voir le vrai impact commercial,
ouais, ouais.
Par contre, c'est génial de, parce que tout le monde reconnaissait la pièce, etc., donc c'est cool de savoir
en termes de notoriété, ouais, de visibilité, ouais, c'est chouette.
Mais du coup, je sais pas dire ce que ça aurait été en tant qu'impact commercial, vu qu'on n'avait plus la pièce. Ça, c'est toujours.
C'est vrai.
Tu peux dire que quand t'as une pièce qui sort, c'est celle que soit t'as plus, soit c'est l'ancienne coupe, enfin bref. Mais c'était trop chouette, voilà, trop chouette. Et elle porte notre marque quand même de manière assez fréquente, que ce soit dans des, ouais, interviews. Ouais, je l'ai vu le jour dans un truc sur Canal+, je crois, elle avait une pièce à nous. Donc, trop, trop cool.
Ouais, Laura Felpin, comique française, ouais, qui est venue à Bruxelles. Moi, je suis allée la voir en décembre et j'ai adoré. Ouais, elle est très, très drôle.
Il paraît. Ouais, non, elle est top.
Et la collaboration avec Pomme?
Ouais, la collaboration avec Pomme, ça c'était en septembre 2022. Donc il y a déjà un an et deux mois. Comment est-ce que c'est venu ça? C'est parce qu'en fait, ah oui, elle nous avait mentionné à la toute base sur France 2. Donc on la connaissait en tant qu'artiste, mais pas personnellement. On n'avait pas de relation avec elle. Et elle nous a mentionné sur France 2 une émission qui s'appelle, je sais plus. Mais en gros, c'est une émission où, c'est genre juste avant le journal, où elle doit dire, par exemple, la dernière personne qu'elle a appelée, le dernier message qu'elle a reçu, la dernière page qu'elle a suivie sur Instagram. Et en fait, on était la dernière page qu'elle a suivie sur Instagram.
Ah, ouais. Waouh.
Et donc, elle a dit, ah, je viens de suivre une marque belge, Valentine Wunderlab, qu'une de mes amies belges, justement, m'a okay, dit de suivre. Donc, suite à ça, c'est une de mes amies qui m'a envoyé ça. Et suite à ça, j'ai envoyé un message en disant, ah, merci pour la mention, c'est très sympa. Elle a très vite répondu en disant, avec grand plaisir, j'adore. Du coup, on en a profité pour lui dire, écoute, si tu veux une pièce, ça nous fera plaisir de t'en offrir une. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, ça, c'est top. Elle a continué à acheter.
Ouais, c'est cool.
Ce qui est relativement rare chez les célébrités. En général, bon, ils reçoivent. Donc, en fait, ils finissent par même demander, ou les stylistes demandent, vu qu'en fait, ils ne payent rien.
Ouais.
Donc, elle, franchement, ça, j'ai trouvé ça top. C'est qu'elle a continué à acheter de manière assez récurrente sur le site. Donc, trop mignon. Et puis, il y a un moment, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tiens, est-ce que ça te dirait pas qu'on discute d'une potentielle collaboration? Je lui avais dit que j'avais pas encore d'idée précise, mais je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Elle m'a dit, écoute, moi, oui. Par contre, j'ai des équipes, etc. Donc, c'est plutôt avec mon équipe d'Universal qu'il faut voir. Elle dit, mais par contre, moi, je suis pas du tout contre l'idée, mais je peux pas du tout engager.
Décider ça, ouais.
Ouais, voilà. Donc, du coup, on a contacté l'équipe d'Universal, avec qui on s'est trop bien entendu.
Ah, chouette.
Et du coup, voilà, ça s'est fait relativement, la décision s'est prise relativement vite. Et on a décidé donc de faire une capsule, une collection une capsule de 8 pièces qu'on a dessinées ensemble. Et donc, qui est sortie 7-8 mois après. Donc, elle est venue shooter à Bruxelles. On a fait un shooting ensemble.
C'est cool, elle est venue à Bruxelles exprès, ouais, pour ça, quoi.
Deux fois.
Ah, waouh.
Elle
wow,
est venue à Bruxelles pour un premier rendez-vous où là, on a tout fait. Enfin, on a fait un peu un brainstorming de ce qu'elle voulait, etc., voir ce qui était possible, réalisable aussi, parce que évidemment, elle connaît pas toutes les contraintes techniques, donc
bien sûr,
c'est un peu trop, et puis les contraintes commerciales aussi, parce qu'après, il faut vendre.
Ouais.
Donc,
vous aviez dû lancer une grosse production ou vous avez pu limiter les quantités?
Trop. On a fait. Ouais. Ça restait des quantités relativement ok, mais c'était quand même un peu trop par rapport à ce qu'on a écoulé. Ah, ça dépend. En fait, t'as des pièces qui sont très très bien parties, et puis les pièces un peu plus compliquées que moi j'estimais déjà compliquées commercialement.
Ouais.
Voilà, ça a été un peu. Ça c'est toujours dans une collection. Tu sais jamais vraiment dire ce qui va bouger et pas bouger. Donc il y a des pièces qu'on était sold out trop tôt, des cols roulés avec des lignes,
ouais,
et d'autres où on en avait trop. Donc ça voilà, ça fait partie du jeu. Et,
ouais, c'est
et,
vrai.
Et par contre, les pièces qui ont un petit peu moins fonctionné, par contre, ce qui est génial, c'est que nous on les a digitalisées et du coup on les a imprimées sur des pièces, mais c'était ses propres dessins.
Ah,
donc
cool.
Ça c'est génial.
Okay.
Et on a travaillé avec une association aussi qui œuvrait au Malawi pour justement le pour soutenir les femmes, les jeunes mamans au Malawi, etc. Donc franchement c'était
et du coup il y avait une partie des fonds
une partie des bénéfices.
Oui, bien sûr.
Ouais, une partie des bénéfices qui a été reversée à l'association. Mais donc voilà, c'était une collaboration avec un vrai but et avec
ouais,
un,
c'est chouette. Ouais.
Surtout que c'est une artiste qui a énormément de valeur, c'est aussi pour ouais, ça qu'on l'a choisie.
Ouais.
C'est parce qu'elle défend beaucoup de choses,
ouais,
donc c'est pour ça.
Ouais, et qui a une vraie identité, ouais, qui a un vrai style, oui, je trouve, oui, et je trouve que ça allait bien avec ouais, votre univers.
Le seul truc, c'est que je pense que ça cible un peu trop, enfin la cible du coup, donc son audience, on va dire,
ouais, sa communauté,
un peu trop jeune. Ouais, ouais. Sa communauté un peu trop jeune. Du coup, je pense qu'on les a un petit peu perdus au niveau du prix, alors qu'on avait déjà décidé d'abaisser les prix.
Ah ouais.
Maintenant, tu sais ce que c'est, les prix, à un moment, on peut juste pas les descendre.
Non.
Donc voilà, je pense qu'on s'est un petit peu, on a peut-être été un petit peu trop cher pour son, pour sa communauté. Mais par contre, on a fait une très belle presse.
Ouais.
Et il faut pas voir toujours l'impact commercial.
Non, je suis d'accord.
Voilà, il faut. Enfin, si, c'est important évidemment, mais il y a parfois des. Là, on le faisait pour l'image, pour le coût média et pour parce qu'on avait envie de le faire.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Voilà. Après,
il y avait une joie, une excitation
oui, voilà,
qui
ça,
était là.
Vraiment, c'était trop chouette. Et puis. Oui, ça a quand même été, en tout cas en France, ça a été quand même gros,
un vrai,
etc. Donc
chouette.
Ouais, donc c'était très très chouette.
Cool.
Et humainement, elle est top, donc c'était et leur équipe aussi, donc c'est ça qui est, ça s'est très bien passé, tu vois ce que je veux dire, ça c'est important aussi.
Ouais, bien sûr.
Donc
t'aimerais refaire encore des collaborations comme ça?
Ouais, je crois que financièrement,
un investissement.
C'est quand même un investissement. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Mais je pense que oui, c'est intéressant parce que ça te permet de toucher justement une audience que tu touches pas du tout. Et
du coup, t'as vu quand même que ça t'avait aidé sur ta notoriété sur le marché français.
Ouais,
c'est chouette.
Ouais. Et puis oui, les gens en parlaient. Et puis les gens, ils voient pas. Enfin, c'était quand même pas, c'était pas rien.
Ouais,
en France,
c'est pas rien.
Donc, ouais.
Surtout qu'elle fait pas ça régulièrement,
non,
donc c'était plutôt.
Oui, c'est ça. Et c'est ça qui était très chouette aussi, c'est que elle nous a dit et via Universal, on sait aussi que c'était une de ses. Elle avait vraiment envie de le faire et
ouais.
Ça venait vraiment du cœur et
cool.
Donc c'était. Non, c'était très
oui, ça m'étonne pas qu'il y ait eu plein de presse. C'était une jolie histoire, quoi.
Ouais.
C'est sûr de sûr.
Ouais.
Et d'ailleurs, en France, vous êtes vendu à la Samaritaine.
Samaritaine.
Chouette.
Ouais.
OK.
France, Samaritaine.
Ça fait combien de temps maintenant?
Depuis le début de leur réouverture. C'était je dirais, 2021.
Cool.
Je pense, 2021. Et ils nous avaient contactés et on a été, de la première saison de leur réouverture. Et là, on a encore rendez-vous avec eux à Paris en janvier maintenant, donc ça veut dire que logiquement ils vont reprendre encore l'hiver prochain, donc je pense que et en fait on s'entend très très bien avec leur équipe.
Cool.
On va sur le floor deux fois par saison pour faire un training, etc. Et on s'entend bien avec toute leur équipe, que ce soit le marketing, les acheteuses et les gens, les personnes, le personnel de vente. Donc
ouais, c'est cool.
C'est les personnes quand même qui représentent notre produit toute l'année en fait.
Ouais,
c'est la personne qui va aller vendre ton produit. Donc,
super.
Donc on a une très très bonne relation avec la Samaritaine, c'est très chouette.
Cool. C'est quoi les valeurs que tu as envie de défendre avec Valentine Whitmer Lab?
Déjà, on a envie d'avoir un produit juste, que ce soit notamment par rapport à son prix, parce que c'est vrai que souvent on a le commentaire comme quoi, enfin on le sait, hein, c'est pour tout, mais les gens disent que c'est fort cher, etc. C'est juste que non, on essaie d'avoir un prix juste en payant tout le monde correctement. On est en des petites quantités, parce que qui dit petite quantité dit évidemment prix plus important. On travaille, et ça c'est vraiment notre mais c'est le cas avec nos 8 ateliers, c'est qu'on travaille avec des gens terriblement humains, qui se battent pour leur métier. Franchement, c'est tous des artisans, et jamais par exemple je vais décider d'aller réduire ma qualité pour pouvoir faire des plus grosses marges ou même réduire le prix. Ça c'est vraiment un gros focus pour nous, c'est l'extrême attention portée sur la qualité du produit. Et la transparence de production des matières premières, ça c'est terriblement important. Et
c'est quoi un peu la qualité, quoi, vraiment une valeur de qualité.
Ça c'est vraiment terriblement important, la qualité.
Et où est-ce que tu sources ces matières?
Alors on les source en général en Italie, au Portugal surtout.
Mm-hmm.
Notre coton, par exemple, c'est tout ça, c'est géré au Portugal. On travaille avec certains filateurs de pays de l'Est, mais qui sont vraiment top. Parce que parfois, c'est vrai que les pays de l'Est, ça peut faire un peu peur.
Je pense qu'il y a des super producteurs.
Dans les ateliers, oui. Sur les filateurs, les producteurs, il y a des usines incroyables. C'est juste que les pays de l'Est, on connaît moins.
Ouais.
Et donc, on connaît moins. Et donc, on travaille avec des top filateurs de là-bas. Sinon, c'est principalement des fils italiens.
Super.
Ou portugais. Ouais.
Trop bien. C'est quoi pour toi les milestones, les moments clés de ta marque en 8 ans de vie?
Je vais essayer de te les donner dans l'ordre. Le premier, je dirais que c'est justement notre shift B2C, B2B. Donc,
ouais.
C'est le moment où on s'est dit, tiens, est-ce qu'en fait, notre produit ne pourrait pas fonctionner en magasin? Donc,
ouais.
Ça, c'était un gros premier, une grosse première step. Après ça, je dirais qu'il y a eu le... C'est pas vraiment une... c'est pas vraiment une grosse tête, mais ça a été un terrible ego boost. C'est quand on a vu que Bella Hadid et Gigi Hadid portaient nos pièces.
Ouais, ouais. C'est vrai.
Ça, franchement, de nouveau, pas d'impact commercial parce que pas tagué, on n'a pas été tagué, etc. Mais niveau...
confiance en soi, ouais, cool, on fait des trucs qui plaisent à ce genre de filles, quoi.
Ouais, ouais. Oui, et puis, enfin, pour le coup, c'est pas n'importe qui. Maintenant qu'on aime ou qu'on aime bien suivre des mannequins, ça c'est personnel, mais je veux dire que,
on a quand même
réussi à toucher les États-Unis et des célébrités qui, dès qu'elles sortent de chez elles, elles sont
prises en photo.
Exactement. Ouais. Donc ça a quand même été un gros ego boost. Ça, c'était trop chouette.
Et tu sais comment ça s'est passé? C'est via des stylistes?
Moi, j'avais contacté à l'époque via une assistante, une stagiaire, une styliste. Je sais pas comment c'est arrivé. Puis elle m'a dit, ah oui, ça nous intéresse, envoyez ça, ça et ça. Je me suis dit, bon, ça passera jamais. Mais bon, on a envoyé.
Des pièces, des produits.
Ouais, des pièces. Et puis, deux semaines après, on a vu Gigi Hadid porter notre pièce. Et puis, Bella Hadid la semaine d'après. Donc,
ah ouais, donc ça a marché, quoi.
Ouais. Oui, mais bon, depuis on réessaye, on n'a jamais rien vu. Donc ouais. Je pense que c'est un énorme coup de bol.
Ok.
Mais depuis ça marche plus. Donc, donc je pense que c'est vraiment... Non, mais surtout qu'il faut trouver le bon contact, qu'elle te réponde. Il faut que ce soit livré, que ce soit sélectionné. Il faut que ça aille, que la célébrité, que le styliste aime, que la célébrité aime, qu'elle le porte, qu'elle soit street stylée et qu'on trouve la photo. Donc tu vois, il y a énormément d'étapes.
C'est vrai.
Oui.
Dit comme ça.
Ah oui. Donc il y a tellement de
paramètres.
Oui, de paramètres. C'est pour ça que je dis qu'on a eu du bol, c'est que en fait, on a surtout eu du bol de voir cette photo qui est sortie.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà, on réessaye chaque saison. Mais...
Et ça a boosté la visibilité sur le site, le compte Instagram.
Non, ça pas parce que.
Pas vraiment.
Enfin, si, mais sur notre réseau à nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Notre communauté, ouais. Les gens trouvent ça incroyable, etc. Mais par contre, vu que comme je disais, on n'a pas été tagué ni rien. On n'a pas réussi à choper tous les États-Unis, par exemple, tu vois.
Ouais.
Alors que s'il y avait eu un tag ou une mention, ça aurait pu avoir un vrai impact commercial, mais...
Ouais, comme non. Tu dis, ego
par
boost.
Contre, ego boost, c'est l'ego boost et c'est image.
Ouais.
Et moi, j'ai toujours « fake it, you make it ». Et c'est que les gens ont eu l'impression, je pense, qu'on était en train de...
Ouais, d'exploser.
Voilà, donc c'est trop chouette.
Ouais.
Ça fait du bien, moral.
Ouais, je comprends. Ouais. Trop important. Je crois qu'on a déjà parlé un peu de vos difficultés, de vos challenges. Est-ce qu'il y a d'autres milestones, éléments clés que tu as envie de partager?
Je dirais quand même l'entrée au capital de nos derniers investisseurs qui sont arrivés en 2022.
Même question, comment tu trouves des investisseurs?
Alors, donc on avait une première, entre guillemets, série d'investisseurs des premiers jours. Mm-hmm. C'était plutôt Friends and Family à ce moment-là.
Ouais.
Et puis, on a dû aller chercher les plus gros fonds. Ça, c'était donc en 2022. À la base, justement, pour confirmer notre expansion digitale. Donc, du coup, on a dû faire un peu un marche arrière pour leur expliquer qu'en fait, on partait plutôt vers le B2B. Donc, et ça, comment est-ce qu'on a trouvé? On a eu une personne qui nous a toujours très, très fort soutenue. Il nous avait toujours dit, écoutez, moi, votre produit m'intéresse. J'adore votre duo, Arthur. Arthur et toi, sachez que ma porte est toujours ouverte si un jour vous voulez venir me parler, etc. Et puis on s'est dit, ok, on viendra quand notre dossier, enfin quand on estime que notre dossier sera assez en béton. Puis c'est arrivé, on a été le voir, il nous a dit, écoutez, moi je vous suis. Et puis il a fait un tour de table auprès de certains amis à lui, investisseurs, et il a eu deux personnes intéressées, et puis on les a rencontrés, ainsi de suite, et donc ça s'est fait comme ça.
Chouette.
Ouais.
Ok.
Et ça c'était donc l'année passée.
Ok, super. Élément important en effet.
Ouais. Ouais.
Super cool.
Ouais.
Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, avant de te lancer? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune marque qui se lance? Donc, tu as déjà dit quelque chose d'intéressant qui était « trouve-toi un associé ».
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres, y a d'autres choses?
La patience. Pff, franchement, ça, c'est un...
Ouais, le rythme qui...
Ouais. La patience, ça, c'est vraiment tellement important, encore plus dans des situations économiques comme on vit aujourd'hui. 2023, ça a été vraiment... Comme on disait, pour beaucoup de business, on a fait une très belle année 2021, 2022 encore bonne, 2023 était vraiment très très dur. Je suis perso un peu sceptique pour 2024. J'espère que ça va reprendre, mais donc il faut être patient, il faut savoir encaisser les coups durs. Du coup, pour ça, il faut avoir une très très belle, en tout cas dans mon business, une très très bonne gestion du cash flow qui permet justement de pouvoir passer au travers de ces gros moments de down.
Ouais.
Ce qui est vraiment pas facile. Donc voilà, patience. Il faut accepter en fait qu'en effet, un business, ce n'est fait quasi que de haut et de bas. Et qu'en général, quand tu es dans un gros, gros bas, si tu arrives à passer ce bas, logiquement, c'est que tu vas vers un mieux. Moi, c'est un peu ma manière de voir la chose. Maintenant,
Et grosse capacité d'adaptation. Je trouve que tu t'en rends peut-être pas compte parce que t'es encore la tête dans le guidon. Mais je trouve ça incroyable à quel point vous vous remettez en question, à quel point t'es autocritique, à quel point tu vois, tu tires tout de suite des leçons, du showroom passé, des retours des agents. Tu vas tout de suite trouver la solution.
Ça, le pouvoir d'adaptation, c'est l'entrepreneuriat en général, dans notre produit, dans notre marché encore plus. C'est primordial. Et c'est de savoir justement réagir. De se remettre en question, de parfois juste avouer qu'on fait des erreurs ou qu'on ne fait pas bien les choses. Et c'est savoir, en effet, essayer de repenser le produit, la stratégie non-stop pour pouvoir rebondir. Et notamment, pourquoi est-ce qu'il faut un pouvoir d'adaptation relativement rapide ? Parce qu'en fait, on n'a pas le temps.
Et que
nous, ça fait déjà 8 ans et on est encore en train de se poser des questions.
Et je pense qu'on s'en pose tout le temps, et que c'est vital aussi, tu vois.
Mais encore plus dans des années comme ça, où c'est vraiment une année vraiment très difficile pour le business de manière générale. Le pouvoir d'achat est très mauvais. L'Europe souffre beaucoup. L'Européen n'achète plus vraiment. Alors qu'aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Ils sont en train de dépenser. Bon, c'est pas mieux, parce que je pense qu'il va y avoir une crise un peu costaud aussi. Mais le marché européen est vraiment très, très dur. Il est frileux, il ne consomme pas, les prix deviennent débiles. Et les gens préfèrent mettre leur argent dans autre chose que la mode, ce que je comprends tout à fait, parce que je le fais aussi. Enfin, je ne mets plus du tout mon argent dans...
C'est quoi les marques belges que tu aimes bien ? C'est justement ma question d'ailleurs.
Il y en a beaucoup. J'adore mes copines de façon Jacquemin.
Ouais.
Ça, c'est vraiment, franchement, je porte quasi quotidiennement façon Jacquemin. Dans les marques que j'adore, mais aujourd'hui j'ai pas le budget, justement parce qu'on me disait que c'est une année où il faut faire attention. J'adore Christian Hennens, que j'adore, Driss, j'adore, mais même chose, aujourd'hui je peux pas me payer des pièces à ce prix-là. Mais donc, dans les marques plutôt contemporaines, pardon, je dirais façon Jacquemin, Meryl Roach, j'adore.
Cool.
Pas le budget non plus aujourd'hui. Mais c'est des marques qui sont en train d'avoir une très, très belle renommée internationale. Je parle de Meryl Roach, Esther Manas, qui est quand même une marque franco-belge.
C'est quoi pour toi la mode belge, puisqu'on parle ici de mode belge Est-ce que Valentine Whitmer Lab, c'est une marque belge? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Oui, à la base, en fait, moi, je trouve que la mode belge est principalement basée sur... C'est mon feeling, mais sur l'audace. Franchement, je trouve que on a des marques, que ce soit des marques qui sont tenues par des jeunes créateurs ou même des plus âgés, des plus anciennes maisons. Je trouve que franchement, le Belge a un bagout. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on a une très très belle renommée à l'international. Je pense que la Belgique a le vent en poupe, que ce soit dans le sport, dans la mode, dans le cinéma. Je pense que le Belge a sa patte. Alors qu'on est quand même un très très petit pays, divisé en deux, une barrière linguistique quand même assez costaud. Donc voilà, je pense que le Belge se démarque fort des autres. Franchement, il a son esthétique et surtout on a quelques très très beaux noms qui sont à la tête de grandes maisons françaises.
Ouais, même, absolument.
Chez Prada, chez Saint Laurent. Franchement, je pense que le Belge a une pour un si petit pays, je pense qu'on a une très très belle renommée internationale.
C'est vrai,
très
tout à fait. Tu le ressens, toi, en tant que marque belge ?
Mais je sais que quand on dit on est marque belge, les gens adorent, vraiment. Mais même à Paris, tu vois, on peut croire qu'ils sont un peu plus...
chauvins.
Non, mais vraiment, c'est vrai. Ils adorent. Mais pour te dire, maintenant, on travaille avec un agent Talk Studio à Paris. Et il a quasi plus que des marques belges maintenant dans son studio. Dans son showroom, il a Arte, il a Façon Jacquemin, il a notre marque maintenant. Et ils disent, on adore les Belges.
Ah, c'est cool.
Parce que voilà, je pense qu'on a une très, très chouette dynamique et très peu de prétention, je pense. Et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi la force des marques belges et des personnalités belges aussi. C'est que je pense qu'on est tous... c'est ce que j'estime être très, très... très humble et
accessible.
Très accessible.
C'est vrai.
Et je pense que ça se ressent et du coup voilà. Et puis le produit est bon donc. Donc voilà.
C'est cool. Et d'ailleurs je termine toujours mon podcast, mes interviews avec cette dernière question. Qui justement dans la mode belge tu trouves inspirant et que tu aimerais écouter à mon micro.
Féminin, masculin.
À qui tu veux.
Ok. Esther Manas.
Ouais. Super idée.
Qui pour le coup, on entend beaucoup parler d'elle, très très inspirante parce qu'elle fait un produit particulier mais à la fois très actuel parce qu'elle propose quand même un produit qui est très basé sur l'inclusivité et qu'elle fait ça à sa manière, de manière très très féminin justement. Ouais. Et je trouve ça Et puis, elle a quelque chose à dire, quoi. Ouais, franchement, ouais, ça, je trouve aussi. Ça. Donc, j'irais Esther Manas.
C'est aussi un duo, d'ailleurs.
Ouais, ouais, exactement. Enfin, oui, oui, exactement.
En associé.
Ouais. Oui, ben voilà, oui, exactement. Un couple, d'ailleurs.
Un couple, ouais, ouais. Je crois, ils sont mariés, ouais.
Et sinon, moi, j'ai une grande obsession, mais depuis des années, c'est pour Peter Mullier, qui est chez Alaya.
Ah, ouais.
Ça, c'est mon... Je sais pas, je suis fascinée par ce gars qui a repris une maison emblématique et une maison incroyable et qui
fait ça très très bien.
Ouais. Et c'est sublime ce qu'il fait, mais en plus de ça, il respecte vraiment les codes d'Alaya. Et donc lui, c'est vrai que ça a toujours été un peu un de mes gros coups de cœur belge.
OK, et ben ouais. Challenge accepté. Ouais. Je vais essayer d'interviewer Peter Mullier.
Ouais. Ouais.
Très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter?
Non, mais juste pour justement revenir un peu sur la patience, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit, ça paraît très cliché.
Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'aime bien me dire ça, que les belles choses prennent du temps.
Voilà.
Et que si ça prend du temps, c'est parce qu'on est en train de créer quelque chose de joli, quelque chose de bien.
Ouais. Donc j'espère, mais...
Et dans la mode, tu sais, il y a aussi beaucoup d'histoires comme ça, des success stories très courtes, très fulgurantes, et c'est pas forcément le chemin que je vous souhaite.
Non.
Et du coup, il faut se dire ça aussi, que vous êtes en train de construire une belle marque pérenne, et que du coup, ça prend du temps.
Ouais. Et encore autre chose, mais ça on le disait aussi tout à l'heure, mais c'est bien s'entourer, je parle pas que spécialement de son associé, c'est de ses équipes, ça peut être des équipes de shooting, des équipes de communication, c'est savoir... avoir une bonne équipe autour de soi pour faire décoller la marque, mais ça il n'y a pas que le petit noyau d'une marque ou d'une société, il y a tout ce qui entoure, et ça c'est hyper important de s'entourer.
On n'avance pas seul dans la mode,
impossible, mais non.
Ouais, tu dépends
de rien, non, avancer seul.
Non. Tu dépends de plein de facteurs,
et bien choisir ces personnes là que ce soit pour la presse, le styling, je sais pas, mais je crois que c'est terriblement important.
T'es bonne là-dedans, parce que j'ai l'impression que tu t'entends toujours bien avec les gens, quoi. Vous trouvez vite des équipes qui passent bien avec vous.
Ben
tu vois, tu t'entends bien avec les gens d'Universal, tu t'entends bien avec les gens de la Samaritaine.
Ben c'est marrant, sympa, ça.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça revient, tu vois.
Mais oui, c'est trop important. C'est trop important de bien faire les choses
et d'être sympa, quoi, en effet.
T'as tout à gagner à être, à être sympa et je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et donc,
c'est
donc,
cool.
Voilà, ça, c'est dans mes deux conseils.
Super, eh ben on s'arrêtera sur ces beaux, sur ces belles paroles. Merci à toi, Valentine.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, welovebelgianbrands_podcast, et aussi sur LinkedIn, sous les pages astrid.lefebvre et Lindegrom.